France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Olivier Latrie, je suis né à Boulogne-sur-Mer en 1962 et je suis organiste.
Lorsque vous êtes enfant, on l'entend, Olivier Latrie, voilà, il y a cette espèce de joie, de plaisir de la découverte où vous êtes volontiers accompagné dans tout ça par vos parents. C'est pour l'heure le piano qui vous accompagne. Est-ce que l'orgue arrive parce que il y a aussi une pratique familiale qui vous emmène dans des endroits d'orgue, un temple, une église, une pratique religieuse qui fait que vous découvrez l'instrument comme ça? Comment est-ce que cet orgue s'impose? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une histoire de famille?
Non, c'est pas du tout une histoire de famille, mais c'est vrai que j'entendais l'orgue le dimanche à la messe. Je veux dire que quelque part ça me désole pour plein de raisons que les gens n'aillent plus à la messe, mais c'est vrai que quand on va le dimanche, quand on entend de l'orgue, ça peut aussi susciter des vocations. Maintenant, il faut essayer de trouver d'autres biais pour que les gens puissent entendre de l'orgue. Comme quoi, les orgues, comme à Radio France, par exemple, sont extrêmement importants, parce que ça peut être aussi maintenant, pour de jeunes enfants, de découvrir un instrument comme celui-là. Et donc j'entendais l'orgue le dimanche à la messe, et j'avais émis le souhait à ma mère notamment de faire de l'orgue. Elle s'était renseignée et elle dit « oui, il y a une possibilité, il y a des stages d'orgue, visiblement, où tu pourrais aller à Arras, mais je sais pas, je devais avoir 8-9 ans à ce moment-là. Hein. » Et elle dit « mais il paraît qu'on vit tout seul dans une cellule comme ça. » Alors déjà le terme « cellule », vous voyez, parce qu'en fait c'était dans l'ancien grand séminaire d'Arras. Et en fait, on était dans les chambres des séminaristes. Et le fait d'être dans une cellule, non, je pouvais pas imaginer. Genre, il a eu l'impression d'être en prison et tout. Je dis, alors, l'orgue, d'un seul coup, finalement, était mis sur la voie de garage. Non, c'était pas possible. Et en fait, c'est venu un tout petit peu plus tard. Je vous ai dit que j'avais deux frères plus âgés. Et il se trouve que mon frère aîné, Christian, avait un ami qui se mariait. Et j'avais un tout petit orgue électronique de 3 octaves. C'est vraiment tout petit, quoi. Sans pédale, rien, un clavier. Et l'ami de mon frère, qui se mariait, me dit « bah, ce serait bien que tu viennes jouer à la messe de mariage, tu prendras ton petit orgue et puis tu joueras quelque chose. » Et puis j'avais 12 ans et j'ai dit « oh bah non, s'il y a un orgue dans l'église, je vais jouer l'orgue de l'église. » Je savais pas du tout ce que c'était, mais pas du tout. Et voilà, bah, à 12 ans, on a peur de rien. Bah, j'y suis allé. Et c'était la première rencontre avec l'orgue.
Qu'est-ce qui vous a fasciné, Olivier Latrie ?
Le fait que ce soit un énorme instrument, parce que déjà, c'était pas dans ma paroisse. En fait, on habitait à Boulogne, mais le mariage avait lieu à Armentières, à Saint-Va d'Armentières. Je suis arrivé devant une console d'orgue à 3 claviers, avec des boutons partout. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Alors, heureusement, il y avait des jeux que je connaissais. Flûte, je connaissais. J'en avais fait. Bombarde, ah, je sais ce que c'est, mon frère en joue, etc. Et donc, je pousser ces boutons comme ça sans trop savoir, et en faisant l'air de m'y connaître, par contre, évidemment, comme un peu présomptueux. Et heureusement, il y avait des boutons sous le premier clavier qui annulaient tout ce que j'avais mis comme registration, qui s'appelait pianissimo, piano, mezzo forte, etc. Et donc, je me suis servi pratiquement de ça pendant la messe, quoi. Et voilà, c'était le premier jour, c'était la première rencontre avec l'orgue. Je veux dire que c'était un souvenir incroyable, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était cette première rencontre, aussi parce que pendant la messe, je m'amusais avec les boutons, justement, et bah, à 12 ans, on n'est pas très grand, hein. Et je suis tombé sur le premier clavier. Je suis tombé, je me suis rattrapé avec les coudes, comme ça. Ça fait, évidemment, vous imaginez, on fait comme on peut, ça fait un bruit énorme, énorme. Évidemment, je me sentais un petit peu mal à l'aise. Il y a une femme qui est tombée dans les pommes en bas. Quand même, c'était ma première expérience avec l'orgue. Mais il faut que j'ajoute c'était pas tout ce jour-là. Parce qu'en fait, mon frère restait au mariage. C'était son ami qui se mariait. Et ma mère et moi, on est rentrés en train. Et le train se séparait en deux. Il y a une partie qui allait à Dunkerque et l'autre qui allait à Boulogne. Évidemment, on était dans la mauvaise partie de train. On s'est retrouvé à Dunkerque à 8h du soir, un samedi, comme ça. Et j'étais évidemment totalement tétanisé. J'ai même dit, comment on va faire et tout? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et elle m'a dit, non, t'inquiète pas, papa va venir nous chercher. Effectivement, elle l'a appelé. On est resté dans un café en attendant. Il est arrivé 1h30 après et puis on est rentré comme ça. Mais enfin, le même jour, j'ai quand même découvert tout ce qu'on peut faire avec un orgue. L'effet qu'on peut produire, puisque si on est capable de faire tomber des femmes dans les pommes, vous vous rendez compte. Et puis en plus, j'ai découvert ce qu'allait me suivre tout au long de ma vie avec la joie des voyages, des retards, des grèves, etc. Et j'en passe.
Alors Olivier Latry, lorsque vous rentrez à Boulogne-sur-Mer après ce périple un petit peu compliqué,
oui.
Il est très clair qu'il faut prendre des cours d'orgue.
Oui, ça c'est sûr. Ben finalement, je me suis inscrit à ce stage que je ne voulais pas faire quand j'avais eu 8-9 ans, parce que je voulais pas aller en cellule. Et je me suis retrouvé effectivement au stage d'orgue d'Arras, qui était un stage de formation pour les jeunes organistes. Il y avait au moins 120 élèves, c'est énorme. C'est plus comme ça maintenant, malheureusement, mais on était là et tout le monde avait alors soit son harmonium pour travailler pour les gens qui n'avaient pas encore assez de pratique de clavier, ou bien pour les autres, on allait dans des églises de la ville accompagné d'un prof. Et il se trouve que ce prof, c'était l'abbé Brobion, qui était justement l'organiste de la cathédrale de Boulogne. Et j'ai eu mes premiers cours d'orgue avec lui pendant ce stage qui durait 15 jours. Il m'a appris les rudiments du pédalier. Après, comme pendant l'année scolaire, j'avais pas le temps de suivre des cours, j'ai travaillé en autodidacte. Et l'année d'après, je l'ai retrouvé encore au stage d'Arras et j'ai fait ça pendant 3 ans avant de prendre des cours réguliers avec lui.
C'est-à-dire que vous aviez les clés du coup de l'orgue, enfin, ou en tout cas, parce que je veux dire, travailler son pédalier, c'est oui. Pas chez vous avec votre petit temps que vous allez le faire.
C'est vrai. Et donc j'avais les clés de l'église Saint-Michel à Boulogne et j'étais très fier. En plus, c'était à l'époque, on avait des grandes clés, c'était pas les clés de sécurité qu'on a maintenant, c'était des clés énormes, enfin, qui faisaient, je sais pas, 15-20 centimètres. Alors j'avais ça comme ça sur moi, j'étais très fier d'avoir les clés du paradis, vous vous rendez compte.
C'était quoi comme orgue?
C'était un orgue plutôt symphonique du facteur Merklin. Deux claviers pédales, 17 jeux, qui étaient bien, qui avaient été restaurés plusieurs fois. J'ai eu la chance aussi d'avoir le curé de la paroisse, l'abbé Vielle, qui était fantastique, qui m'a laissé justement jouer l'orgue, travailler autant que je voulais. Et en fait, on était plusieurs jeunes organistes comme ça dans cette paroisse à vouloir comme ça s'intéresser à l'instrument. Et il y avait même des amis de certains organistes qui étaient flûtistes ou autres et qui venaient justement pour les offices pour jouer. Comme ça, on faisait de flûte et orgue, on faisait violon et orgue ou de l'orgue seul. Mais il y avait une superbe ambiance. C'était fantastique. Je veux dire que ce curé, l'abbé Vielle, était tellement généreux que non seulement il m'a laissé travailler, mais en plus, je me souviens, quand j'ai commencé à faire ça en professionnel, et qu'il faisait froid dans l'église, il faisait 2 degrés quand même, c'est pas chaud pour travailler. Il m'avait fait installer un chauffage au frais de la paroisse quand même. Et puis en plus, le chauffage, les gros trucs d'avant qui consommaient beaucoup d'énergie, d'électricité. Et voilà, je suis redevable aussi. Enfin, j'ai eu que des gens comme ça qui m'ont permis vraiment d'aller dans la voie, quoi.
Cet abbé Brobion, qu'est-ce qu'il vous apprend ?
Il m'apprend la passion de l'orgue. Alors, il m'apprend déjà, au départ, à poser les pieds comme il faut au pédalier, selon les principes de la bonne technique, etc. Enfin, ce qu'on appelait la bonne technique, à ce moment-là, évidemment, une technique différente de ce qu'on apprend maintenant.
C'est-à-dire, c'est pas toujours point de talon
Si, c'était point de talon, bien sûr, mais le genou serré, ça émanait de la méthode de Marcel Dupré. Marcel Dupré, qui était professeur au Conservatoire de Paris jusqu'en 1954. Et en fait, le professeur de l'abbé Bourbillon était Jeanne Joulin, à Lille, qui était une élève de Marcel Dupré. Donc évidemment, voilà, la ligne directe était là. Il était aussi exigeant, pas aussi exigeant que Madame Pochet au piano, mais quand même assez exigeant. Et il fallait que ce soit propre et tout, et ça m'allait très bien. J'étais très content. Mais à côté de ça, il m'a appris la passion, notamment à partir du moment où j'ai eu les cours chez lui après, parce qu'il avait un petit orgue chez lui. Comme il était aussi passionné que moi, en fait, il écoutait beaucoup de concerts, etc. Il me disait « Oh, t'as entendu le concert de Marie-Claire Alain sur France Musique ? Écoute, je l'ai enregistré, on va écouter ensemble et tout. » On écoutait la Passacaille de Bach. Et puis, quand je travaillais une pièce, il avait des disques et on comparait les interprétations entre plusieurs organistes comme ça. C'est formateur quand on a 14 ans, 13-14 ans.
On se fait l'oreille.
Oui, exactement.
Quel était votre goût ? Qu'est-ce qui vous fascinait ? Qu'est-ce que vous aimiez, Olivier Latrie ?
À ce moment-là, je jouais beaucoup de musique ancienne. Bach particulièrement, évidemment, la musique française, des choses comme ça. Ça m'a duré quand même un certain temps, hein. Je veux dire, jusqu'à ce que je sois nommé à Notre-Dame. Où là, on m'a demandé plutôt de la musique symphonique, puisque ça correspondait plus à l'orgue. Mais c'est vrai que c'était plutôt la musique ancienne qui m'intéressait, et avec quand même quelques incursions dans le répertoire 20e, genre anglais, notamment, un petit peu d'Olivier Messiaen. Oui, Messiaen m'a toujours intéressé aussi.
France Musique, les grands entretiens d'Olivier Latrie.
L'orgue qui arrive dans votre vie, ça veut dire exit le piano ou pas forcément ?
Ça a failli vraiment. Mais j'ai quand même travaillé le piano très sérieusement jusqu'à 17-18 ans, ne sachant pas si j'avais pas justement intégré une classe de piano au Conservatoire de Paris. Mais finalement, l'orgue a pris le dessus très rapidement. Après l'euphorie de mon premier prix de piano au Conservatoire de Boulogne, où j'avais joué la sonate en si mineur de Chopin, notamment, là, je dis « Ah oui, je vais faire le piano, je vais me présenter. » Et finalement, je suis retourné voir Madame Pochet au début de l'année suivante, en lui disant « Bah non, finalement, je vais faire de l'orgue. » Ça a été très dur à admettre pour elle, évidemment.
Est-ce qu'il y a, lors de ces stages à Arras, est-ce que vous en faites plusieurs ? Vous en faites qu'un an, vous y retournez
Oui, j'y suis retourné 3 ans de suite. Après, j'ai eu un concours de jeunes organistes qui s'appelait le Prix d'Artisien, j'avais 15 ans, qui était destiné à un organiste de moins de 20 ans. J'allais au stage d'Arras après, pareil, pour continuer d'abord à voir les copains, parce que là, il y avait une super ambiance, vraiment. Et puis aussi pour continuer à apprendre. Et en fait, il manquait de prof, et ils m'ont dit « bah tu seras prof ». Voilà, à 15 ans, je me suis retrouvé prof, comme ça, là-dedans. C'était assez amusant. Bon.
C'est-à-dire que vous êtes allé quand même très vite, parce que vous rencontrez l'orgue, vous avez 12 ans. Oui. Alors évidemment, il y a une base de piano derrière, mais enfin, l'orgue, c'est pas du piano.
C'est vrai. Je vais vite. Mais vous savez, le fait d'avoir l'oreille absolue, ça aide, parce qu'on apprend très vite. Après, je déchiffrais très vite. Donc finalement, oui. Et puis quand on est passionné, tout va toujours très vite.
Alors vous avez commencé, Olivier Latrie, vous nous le disiez très très tôt, hein, à 15 ans comme ça, à donner des leçons. Oui. C'est quelque chose qui s'est concrétisé quand vous en avez quelques-unes de plus, mais pas tant que ça, à 21 ans. Quel professeur on est quand on a 20 ans ?
Je veux dire que j'étais assez exigeant.
Vous allez être professeur à Paris, à l'Institut,
l'Institut catholique,
c'est ça, à Reims également.
Reims, oui. J'ai d'abord été accompagnateur à Reims. Ça aussi, c'était très formateur. D'abord, c'est formateur sur un plan humain, parce qu'on voit énormément de monde. Il y a des semaines où j'allais au conservatoire pour dire bonjour, il n'y avait rien à faire. Mais il y a des semaines, j'allais pour soit 50 heures ou 60 heures, parce qu'il y avait des concours et qu'il fallait accompagner tout le monde. Et il fallait aussi soutenir les gamins qui passaient les épreuves. Je veux dire que ça, c'était incroyable. Non seulement ça, les aider humainement, évidemment musicalement, mais aussi parce que j'ai appris beaucoup de répertoires. Et il y avait des profs fantastiques. Il y avait Jean-Louis Capezzali, qui était prof de hautbois, par exemple, qui était après super soliste à l'orchestre de Radio France. Enfin, il y avait Annie Jaudry, qui était prof de violon, Pierre Pénassou, prof de violoncelle. Il y avait François Boulanger, qui était prof de percussion, qui est maintenant le chef de la garde républicaine. Enfin, il y avait une atmosphère fantastique. Olivier Trachier, qui était prof d'écriture. Vraiment, il y avait des gens fantastiques. Voilà, le fait d'être accompagnateur, bon, on se baladait dans toutes les classes. Et je veux dire que quand j'ai été nommé prof d'orgue, après ces 3 ans passés à faire de l'accompagnement, ben j'ai un peu déprimé. Parce que j'étais tout seul dans ma classe avec, je sais plus combien, 15 élèves. C'était triste.
En 90, vous allez succéder à votre professeur,
oui,
à Saint-Maur.
À Gaston Litaise.
Ça, c'est un sacré moment, j'imagine.
C'était un sacré moment, surtout quand je me souviens encore du moment quand il m'a appris qu'il voulait que je le remplace, que je lui succède. Il jouait un concert à Notre-Dame. Il y avait des auditions tous les dimanches après-midi. Et je me souviens aussi très nettement que cette audition était consacrée à Louis Vierne, qui avait été son professeur. Voilà. Et Louis Vienne, qui avait été aussi organiste à Notre-Dame. Et il me dit, voilà, j'aimerais bien que tu me remplaces à Saint-Maur. Évidemment, c'était la douche froide qui me tombait dessus. Enfin, je dis, quel honneur. Enfin, c'était extrêmement touché, évidemment. Bon, ça a pris 1 an et demi, hein, mais il voulait préparer les choses comme ça au mieux. Et c'était incroyable.
En 1995, Olivier Latry, vous allez entrer comme professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Votre professeur Gaston Litaise qui vous avait dit « surtout pas Paris, surtout pas Paris », là vous y entrez pour enseigner et pas pour recevoir un enseignement. Vous y aviez déjà suivi des cours, mais pas d'orgue. Vous êtes aux côtés de Michel Chapuis.
Non, Michel Chapuis part en retraite. Et c'est pour cela, justement, qu'il y avait besoin d'un professeur. En fait, il y avait besoin de plusieurs professeurs, puisque Marc-Olivier Dupin, qui était directeur à ce moment-là, avait décidé de scinder la classe d'orgue pour avoir un professeur d'orgue pour la musique de Bach jusqu'à nos jours, un professeur d'orgue pour la musique ancienne jusqu'à Bach, et puis un professeur d'improvisation. Et il avait demandé à 3 personnes, dont Loïc Maillet pour l'improvisation, et Michel Bouvard pour la musique ancienne, et moi-même pour la musique symphonique. Et sans se concerter, puisque je ne savais pas que c'était Michel, et Michel ne savait pas que c'était moi. Tous les deux, on a dit non, ça ne nous intéresse pas. On dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de la musique. On se partagera les élèves, et donc depuis plus de 20 ans maintenant, c'est presque 25 ans, on se partage les élèves, c'est-à-dire que c'est une classe bicéphale. Les élèves vont d'une classe à l'autre, et on les conseille des 2 professeurs. Alors, c'est assez drôle, parce que en fait, on a le même but musical, mais on n'a pas les mêmes moyens pour y parvenir. Ce qui veut dire qu'on va, mais s'entretuer vraiment sur des broutilles, sur la manière de faire, sur l'articulation, sur ceci, sur cela, sur des doigtés, et les élèves sont au centre de ça. Ou alors on fait des cours en commun, ça nous arrive. On va même faire un cours public en commun au conservatoire au mois de janvier. Donc si les auditeurs veulent venir, aucun problème. Il est prévu qu'on ait les gants de boxe justement pour pouvoir s'entretuer sur scène sur un répertoire précis avec l'élève au milieu qui va assister en tant qu'arbitre à la situation.
On sent aussi, Olivier Latry, qu'il y a dans votre fascination pour cet instrument, qui est fascinant, évidemment le son, les fortés, la capacité d'avoir tout l'arc-en-ciel sonore possible et imaginable, mais aussi l'instrument lui-même. Il y a quelque chose d'assez démiurgique, je veux dire, à être en tribune. Voilà, cette partie-là, c'est aussi quelque chose de très important.
Ben oui, bien sûr, évidemment. C'est le travers des organistes, très souvent. Puisqu'en fait, comme je disais, c'est quand même extrêmement pervers, vous vous rendez compte. Alors, non seulement, déjà, vous pouvez fermer la porte de la tribune, donc vous êtes seul chez vous. Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez, déranger tous les gens que vous voulez en bas. Enfin, c'est quand même incroyable. Il faut faire très attention. Peut-être que je n'ai pas toujours fait très attention. J'ai appris à faire attention plus tard. En plus, on voyait les gens en bas quand on jouait de l'orgue à Saint-Michel. Quand il y avait des gens qui arrivaient pour visiter l'église, ah, à ce cas-là, je mettais le plein jeu pour jouer quelque chose, pour montrer. Ah, voilà, donc il y avait ce côté un petit peu démonstratif. Oui.
C'est plein de contradictions, parce que l'orgue, oui, il y a quelque chose de démiurgique. En même temps, ça fait partie de ces instruments, et c'est peut-être même le seul, là, je ne vois pas d'autres, mais qui soit un instrument qu'on entend quand on est, en tout cas, dans le cadre d'une église, et que c'est vraiment l'orgue de la tribune. On entend la musique sans qu'elle soit incarnée pour les gens qui sont en bas.
Oui,
c'est quelque chose de très particulier aussi, cette non-incarnation, je veux dire, de la musique quand on est organiste.
C'est vrai, et je m'en étais pas rendu compte en fait. Mais c'est vrai que des gens qui rentrent dans une église ne peuvent pas imaginer forcément qu'il y ait quelqu'un qui joue de l'orgue. On entend l'orgue, on ne voit pas l'organiste. Mais c'est vrai que quand j'allais au concert, par exemple, je m'étais jamais posé cette question. Mais en fait, quand j'allais au concert à la cathédrale de Boulogne, quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'imaginais pas cet aspect des choses, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui jouait, évidemment, puisque j'étais moi-même organiste. Donc j'avais pas ce rapport à un instrument inerte ou je ne sais quoi. Mais par contre, maintenant, je suis effectivement assez dérangé par ce côté inerte de l'instrument. Et à chaque fois que j'ai pu contribuer à la construction d'instruments neufs, j'ai essayé de faire en sorte que l'orgue soit mobile, en tout cas où il se passe quelque chose visuellement. Ça a été le cas notamment, par exemple, à Radio France ou à la Philharmonie, où il y a des volets qui bougent, il y a des lumières, des choses comme ça. Et je crois que c'est important aussi de se rendre compte que derrière la façade, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a de la mécanique, etc. Il y a des choses qui bougent, il y a des tuyaux qui parlent. Et donc, il faut qu'on le sache, tout ça. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je me souviens le premier concert que j'ai donné à Saint-Sulpice, par exemple, à Paris, qui est un instrument de cavaille-école dans l'état totalement originel. C'est un petit peu comme si maintenant on vous demandait d'aller conduire une locomotive à vapeur, quoi. Enfin, c'est fantastique, une locomotive à vapeur. Enfin, vous rendez compte tout le côté ingénierie, etc. Enfin, c'est évidemment, on va plus vite avec un TGV, d'accord. Mais enfin, la machine elle-même est absolument géniale, quoi. Et ben, ou une deux chevaux, par exemple. Tout est dans la deux chevaux. C'est pas une Porsche, mais c'est une voiture absolument géniale. L'orgue de Saint-Sulpice est génial. Mais par contre, jouer cet orgue, c'est presque une épreuve de force. Et on se rend compte qu'effectivement, si on ne dompte pas l'orgue, on est bouffé par l'instrument. Un concert là-bas, c'est pratiquement un combat.
C'est comme la lutte de Jacob avec l'ange qui est juste en dessous.
C'est ça, exactement. mais il faut... c'est un combat pour la bonne cause, évidemment. On a besoin de ça, en fait. On a besoin de s'investir énormément, trois fois plus que d'habitude. Et je veux dire que je me souviens avoir fondu en larmes à la fin du concert, tellement j'étais... par l'instrument déjà, mais aussi par rapport à l'énergie que j'ai dû déployer pour réussir à jouer, quoi.
Et parce que quoi? Qu'est-ce qui est si difficile de trouver l'alliance idéale des jeux? Le fait qu'il y ait, comme c'est une église qui est immense, j'imagine qu'il y a peut-être un délai qui est particulièrement long aussi. En même temps, ça vous y est habitué. Quelle est cette difficulté particulière?
Non, ça, c'était vraiment pas le problème, parce que j'étais déjà organisé à Notre-Dame, les églises grandes, je connaissais, les grands orgues aussi, l'acoustique, etc. Non, mais c'était plutôt le rapport au toucher de l'orgue. Parce qu'on se rend compte que l'orgue, là-bas, a une certaine inertie. Mais qu'on peut vaincre cette inertie selon comment on joue l'orgue, comment on attaque les tuyaux, comment on attaque les notes, comment on joue les notes ensemble ou pas, etc. Et en plus, il y a un côté assez lourd, le clavier est très lourd. Ce qui fait que c'est très facile de se dire, bon, je vais préserver mon énergie, ne pas trop jouer avec trop de force pour pas me fatiguer, etc. Si on ne se fatigue pas, l'orgue ne sonne pas. Donc si on veut le faire sonner, effectivement, c'est pas une question de registration, c'est vraiment une question de manière de jouer. Il faut s'investir beaucoup.
variations de Noël aujourd'hui, signé Marcel Dupré par Olivier Latrie et la maîtrise Notre-Dame de Paris pour refermer le deuxième épisode des grands entretiens avec Olivier Latrie. Réalisation Christine Amado, prise de son Marie Le Peintre, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.